Radio Prague, les informations. Bonjour, le Parti écologique des Verts invite les ressortissants européens vivant en République tchèque à voter lors des élections municipales. Le gouvernement va venir en aide aux producteurs de volailles frappés par la grippe aviaire. Le montant des pensions de retraite va augmenter en janvier prochain. Le Parti écologique des Verts invite les ressortissants des pays membres de l'Union européenne disposant d'un permis de séjour longue durée en République tchèque à voter lors des élections municipales qui se tiendront en octobre. Environ 45 000 personnes, essentiellement originaires de Pologne, de Slovaquie, d'Allemagne, d'Autriche, d'Italie et de Grande-Bretagne, peuvent se rendre aux urnes. Pour cela, il suffit de s'inscrire auprès des mairies des communes ou arrondissements de résidence avant le 18 octobre et d'apporter le jour des élections un justificatif du permis de séjour de longue durée. L'État tchèque entend venir en aide aux éleveurs de volailles frappés cette année par la grippe aviaire et la chute des prix. Le gouvernement a adopté ce mercredi le plan présenté par la ministre de l'Agriculture, tablant sur des dotations d'un montant de 8,7 millions d'euros couvertes par les caisses de l'État et les fonds de l'Union européenne. La production annuelle moyenne de viande de volaille en République tchèque s'élève à un peu plus de 300 000 tonnes. Le montant moyen des pensions de retraite, qui se situe actuellement à 8190 couronnes, soit 287 euros, devrait augmenter de 6,2%, soit environ 17 euros, en janvier prochain. Le ministre du Travail et des Affaires sociales, Petr Nečas, a présenté son projet au gouvernement. Actuellement, le montant moyen d'une retraite représente 41% du salaire mensuel moyen. Le président de la République, Václav Klaus, s'envolera samedi pour une tournée de 2 semaines en Asie. Le chef de l'État, accompagné par une délégation de chefs d'entreprise, se rendra tout d'abord à Omsk, en Russie, avant de poursuivre son voyage en Mongolie, en Chine, au Vietnam, puis à Singapour. Le retour à Prague est prévu le 5 octobre. En tennis, Nicole Vaidishova, tête de série numéro 4 et 10e joueuse mondiale, a été éliminée dès le deuxième tour du tournoi de Pékin par la japonaise Ai Sugiyama, 28e joueuse mondiale, en 3-7, 4-6, 6-1, 3-6. Enfin, un mot de météo, le soleil reste largement présent sur l'ensemble du territoire jeudi, jour de la fête des Matouches, avec quelques rares passages nuageux. Les températures sont conformes aux normales saisonnières et varient entre 6 et 10 degrés pour les minimales et entre 20 et 24 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention, restez en notre compagnie.
Faits et événements en République tchèque. Jarka Gisubelova.
Le budget de l'État pour 2007 et l'adoption de l'euro seront le premier thème de ces faits et événements. Ensuite, nous vous proposons un reportage de la semaine des Tchèques de l'étranger qui se déroule jusqu'à vendredi à Prague. Une exposition consacrée à Comenius a fermé ses portes au centre tchèque à Paris et nous en parlerons avec le directeur de ce dernier. Nous terminerons par un portrait de Jan Železný, recordman du monde du lancer du javelot et triple champion olympique qui a fait mardi ses adieux à la compétition. Très bonne écoute à toutes et à tous. Les déclarations du nouveau ministre des Finances, Vlastimil Tlustý, à propos de la loi budgétaire préparée par l'ancien ministre social-démocrate, Bohuslav Sobotka, ont semé une certaine inquiétude dans les milieux financiers et politiques, suivi de ce sujet par Alain Slivinski.
Le projet de loi budgétaire 2007 présenté par l'ancien ministre des Finances Bohuslav Sobotka comptait avec un déficit de l'ordre de 88 milliards de couronnes. Le nouveau chef des Finances, Vlastimil Tlustý, immédiatement après son entrée en fonction, a déclaré que ce chiffre n'était qu'une illusion et que le déficit serait bien supérieur. Le gouvernement social-démocrate ayant, pendant les années qu'il était au pouvoir, énormément endetté la République tchèque. Dimanche, un duel télévisé a opposé Vlastimil Tlustý à Bohuslav Sobotka sur le thème des finances publiques qui ne seraient pas dans le meilleur état. Les commentaires de la presse de lundi ne sont pas tendres à l'égard de l'ancien ministre des Finances. Pourtant, alors que le quotidien Lidové Noviny affirme que Tlustý a complètement terrassé Sobotka, Pravo, un quotidien de gauche, écrit que Tlustý a présenté des données comme des faits accomplis alors qu'aucun audit ne les avait prouvés jusqu'à maintenant. Le quotidien économique Ospolarské noviny était plus rationnel. Tlustý argumenterait avec les affaires financières, mais sans offrir aucune solution. Pour lui, le projet de loi budgétaire pour l'année prochaine serait devenu une affaire politique. Les commentateurs sont unanimes en ce qui concerne la vente d'une partie des actions du géant de l'électricité Tchèze, préconisée par le ministre des Finances. C'était inévitable, car on ne peut cacher indéfiniment un déficit budgétaire à la Banque centrale ou aux institutions de l'Union européenne. Ce mardi, justement, le Premier ministre Mirek Topolánek a rencontré le gouverneur de la Česká národní banka, Banque nationale tchèque, Zdeněk Toma. Conclusion, l'adoption de l'euro en 2010 par la Tchéquie n'est pas réaliste en raison du mauvais état des finances publiques. Le projet de loi budgétaire 2007 a aussi été au programme. En dépit d'un déficit élevé, la stabilité économique de la République tchèque ne serait pas menacée, Zdeněk Toma. Nous affirmons depuis le début de l'année que beaucoup de choses adoptées par l'ancien Parlement n'étaient pas réalistes et que cela se répercuterait sur l'année 2007. Nous comptons donc avec une certaine expansion du budget, mais nous ne pensons pas que cela pourrait avoir des conséquences fatales sur les marchés financiers ou influencer même le cours de la couronne. Pourtant, en ce qui concerne l'adoption de l'euro par la Tchéquie, Mikaela Erbenova, membre du conseil bancaire de la Česká národní banka, affirme qu'il est temps d'adopter une nouvelle stratégie qui devrait s'intéresser non seulement à la date de l'entrée de la Tchéquie dans l'eurozone, mais surtout aux réformes indispensables qui doivent être réalisées dans les domaines de la santé et des retraites, et en premier lieu dans celui des finances publiques. Une opinion qui rejoint celle du Premier ministre Mirek Topolánek et de son ministre des Finances, Vlastimil Tlustý. Pour son prédécesseur, Bohuslav Sobotka, les déclarations de son successeur ne sont qu'une préparation à de grandes privatisations ou à une ère d'importants déficits budgétaires.
Une semaine des Tchèques de l'étranger se déroule depuis lundi jusqu'à vendredi à Prague. C'est pour la quatrième fois qu'une rencontre des Tchèques, fixée à l'étranger le plus souvent pour des raisons d'exil, est organisée sur le sol de l'Université Charles et du Sénat et sous le patronage du président de la République. Ils sont près de 200 les originaires de Tchéquie venus de quatre continents, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Amérique du Sud, des États-Unis, du Canada, des Balkans, d'Ukraine, de nombreux pays d'Europe, dont l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, la Suède, la France. Comme il a été souligné dans des interventions de ce mercredi, chacun d'entre eux est l'ambassadeur de son pays d'origine et contribue à créer une image de celle-ci dans le pays d'accueil. En Belgique, c'est l'association tchèque Beseda qui, depuis déjà 100 ans, réunit les originaires de Tchéquie. Aneta Březinová, sa vice-présidente, est arrivée en Belgique en tant que représentante de la firme Glaverbel. Un séjour de travail de 3 mois s'est prolongé, voilà maintenant, à 15 ans. Elle est mariée en Belge, mère de 2 filles, qui parlent français et flamand, car la famille est fixée dans la région flamande. À propos des activités de Beseda, elle a bien voulu nous dire.
Združujeme jak frankofonní, tak vlámsky mluvící krajany z celé Belgie.
Nous réunissons tant les originaires francophones que ceux de la partie flamande, donc de toute la Belgique, ce qui pose parfois des problèmes car il y a une barrière linguistique entre eux. Les originaires fixés à Bruxelles ne vont que rarement à des manifestations organisées dans la région flamande et vice-versa. Les originaires des Flandres ne viennent pas à Bruxelles. Il y a certes la distance, mais je dirais que les deux parties ne sont toujours pas liées comme il le faudrait l'une à l'autre.
N'empêche que les activités sont nombreuses, y compris la parution d'un bulletin qui s'appelle Spravodaj Aneta Březinová.
C'est un journal trimestriel sur la vie de notre communauté et nos manifestations. Il y a des photos de nos rencontres fêtant la Saint-Nicolas, des barbecues organisées 2 fois par an, des soirées auxquelles nous invitons la génération plus âgée d'originaires partis de Tchécoslovaquie lors de 2 principales vagues d'exil, en 1948 et en 1968. Ces rencontres ont lieu au centre tchèque à Bruxelles. Le noyau de notre association, c'est 10 ou 15 personnes, des dames qui méritent une grande estime et toute mon admiration et qui nous racontent le passé de notre association.
La question qui se pose est de savoir est-ce que l'existence des communautés n'est pas une affaire de génération. Aneta Březinová ne le pense pas.
Když jsem do spolku přišla, jsem se zhrozila nad tím, že vlastně ty mladí lidé nemají vůbec zájem o tom.
Au départ, j'ai été très déçue par un désintérêt des jeunes de se rencontrer autour d'un verre ou d'un café. Maintenant, on a changé de stratégie, comme le poids des activités de Bastia réside dans l'organisation de grandes manifestations où les gens peuvent s'amuser. Il y a à nouveau beaucoup de jeunes.
Josefovské, to kateřinské bály, na kterých je opravdu zábava a přijde hodně lidí.
Ma dernière question concernait le droit de vote, car une initiative en vue de modifier la loi électorale a été évoquée à cette rencontre par le président du Sénat, Přemysl Sobotka. Anita Březinová a dit qu'elle préfère le système actuel. Il faut voter dans le pays où on vit et dont on peut suivre la situation politique. L'exposition Orbis Pictus vient de fermer ses portes au centre tchèque à Paris. Elle a été inspirée par le chef-d'œuvre du penseur et pédagogue tchèque du XVIIe siècle, Jan Amos Komenský Comenius, Le labyrinthe du monde et le paradis du cœur. Ce n'est pas la fin de ce projet ambitieux que ses auteurs Jiří Valt et Radana Valdová ont appelé Pampédia, la liberté par l'art. Plus de détails avec le commissaire de l'exposition Michael Wellner Pospíšil, directeur du Centre tchèque à Paris, interrogé par Václav Richter.
L'objectif de l'exposition Orbis Pictus, c'est de présenter d'une manière extrêmement originale l'œuvre de Johannes Amos Comenius. Quand je parle d'une forme originale, je parle d'une forme interactive, d'une forme vraiment qui déborde de fantaisie et d'originalité des artistes contemporains tchèques avec Petr Nikl à la tête. Parallèlement à l'exposition qui a été sous le patronage du commissaire européen pour l'éducation en formation, Monsieur Jan Figel, et sous le patronage aussi de notre ambassadeur en France, Monsieur Pavel Fischer, nous avons également édité le livre « Labyrinthe du monde » ou « Paradis du cœur » de Comenius dans une nouvelle traduction révisée, actualisée du professeur Xavier Galmiche sous le patronage de l'université de la Sorbonne. Et donc l'exposition a eu lieu, s'est terminée le 16 septembre 2006 et je pense qu'elle a eu un succès énorme.
Quel a été l'intérêt du public parisien ?
L'intérêt du public parisien se chiffre et je peux vous dire que à partir du 1er août 2006 jusqu'au 16 septembre, l'exposition a été visitée par 6523, ou j'ai pas le chiffre exact en tête, mais en tout cas plus de 6500 visiteurs. Le record de la visite par jour s'est réalisé le dernier jour de l'exposition où l'exposition a été visitée par 465 visiteurs. Je pense que le succès se mesure aussi par trois handicaps que nous avions. Le handicap numéro un, c'est que ni Comenius, ni Petr Nikl, malheureusement, c'est surtout dommage pour Comenius, est vraiment une personnalité très très peu connue en France, pour ne pas dire inconnue. Le handicap numéro deux, c'est que ça s'est passé à Paris. Ça s'est passé à Paris, au Centre culturel tchèque, qui est entouré par des centaines de galeries et par plusieurs des plus intéressants musées parisiens. Et le handicap numéro 3, c'est le handicap de la période estivale de l'exposition où, comme tout le monde sait, Paris est vidé énormément. Donc, tous les trois handicaps réunis, je pense que 6500 visiteurs est un succès.
L'exposition fait partie d'un projet beaucoup plus large, du projet Pampédia, qui va se poursuivre encore. Donc, quel sera l'avenir de cette exposition ?
L'avenir de cette exposition est extrêmement ambitieux. L'exposition est destinée à traverser trois continents, l'Europe bien sûr, l'Amérique et l'Asie. Elle se terminera en 2023 en Ardennes, aux Pays-Bas, où Comenius est enterré. Le prochain arrêt de l'exposition sera à Prague, au musée de la musique. Le vernissage, si je ne me trompe pas, est prévu pour le 15 mars et l'exposition sera là-bas jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc le public pragois pourra déjà visité l'exposition et ensuite l'exposition ira l'année prochaine en Italie, à Rome et à Florence, ensuite au Musée des civilisations à Ottawa, au Canada et dans bien d'autres pays au travers de ces trois continents que j'ai dit tout à l'heure.
Les médias internationaux l'ont remarqué, le recordman tchèque du javelot Jan Železný a quitté la scène mondiale début septembre en Midtjylland. Mais l'ultime compétition de sa carrière impressionnante, il a tenu à la disputer dans sa ville natale, à Mladá Boleslav, sur ce même stade qui a vu son baptême du feu il y a presque 30 ans. Cela s'est passé le mardi 19 septembre et le géant du javelot a lancé son outil à 82,19 mètres. Magdalena Hrozinková.
Tout avait commencé pour moi à Mladá Boleslav, c'est pour cela que j'ai voulu terminer ma carrière ici. En ce qui concerne la compétition, à l'entraînement, j'ai eu l'impression de ne même pas pouvoir lancer à 80 mètres. Mais ce n'était pas si mal à part un essai. Finalement, j'ai regretté de m'être limité à 4 jets.
Non, Jan Železný, 40 ans, n'a pas quitté le stade en pleurs comme l'a fait André Agassi, un autre retraité de la saison à New York. Pourtant, cette fois-ci, ses adieux ont été nettement plus confidentiels que ceux à Stuttgart, devant quelques 30 000 spectateurs et les caméras de télévision. Il est vrai, tout était dans le style du champion, qui vit toujours près de Mladá Boleslav et qui reste pour ses intimes comme pour tous les Tchèques Honza et Payan. Mardi, il a été ovationné par un millier de spectateurs, des enfants surtout. D'ailleurs, Jan Železný lui-même avait invité à ce rendez-vous exceptionnel un florilège de jeunes lanceurs ainsi que des prétendants à sa succession, parmi lesquels la très prometteuse Barbora Špotáková, 25 ans, médaillée d'argent au dernier championnat d'Europe de Göteborg. Peu soucieux de son image de star, Jan Železný s'est inscrit dans l'histoire du javelot, rappelons-le, avec son record du monde à 98 mètres 48 établi en 1996 à Iéna en Allemagne. Son palmarès est à couper le souffle. Triple champion olympique, Jan Železný possède au total 11 médailles des Jeux olympiques, des championnats du monde et d'Europe, sans compter les trophées du meilleur sportif et athlète de République tchèque. En août 2006, il a récolté sa dernière médaille de bronze à Göteborg. C'est donc en pleine gloire que le lanceur s'en va à la retraite, bien qu'il ait souffert ces dernières années de quelques problèmes de santé. Ses adieux à Mladá Boleslav ont tourné à la fête arrosée de champagne. Dans le public, une autre légende de l'athlétisme tchèque, Dana Zátopková, championne olympique du javelot en 1952, qui a fêté ce jour-là son 84e anniversaire. Membre du Comité international olympique, Jan Železný veut se consacrer pleinement à ses activités d'entraîneur. Il suit d'ailleurs une formation à la faculté du sport de Prague. Hier, j'ai été un brin nostalgique. Aujourd'hui, c'est fini. Demain, j'ai un cours d'éducation physique à la fac, a-t-il confié aux journalistes comme si de rien n'était avant de quitter le stade qui porte son nom. Paid my dues, time after time. Done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my share of bad kicks in my face, but I come through. I need to go home. C'était les faits événements. Merci de les avoir suivis et restez en notre compagnie pour la suite du programme sur Radio Prague.
Chapitre de l'histoire tchèque.
Bienvenue à l'écoute de cette page d'histoire relatant les rapports tchéco-russes et qui vous est proposée par notre collaborateur Clément Duclos. L'immédiat après-guerre, nous l'avons vu, avait constitué une période de doute sur l'orientation politique et diplomatique de la Tchécoslovaquie. Profitant d'un état de grâce en Europe centrale et d'une mainmise sur la vie politique tchécoslovaque, Moscou imposa officiellement, en 1948, à Prague, un mariage forcé. Comment se sont dès lors construites les relations entre l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie ?
La Tchécoslovaquie d'après 1948 n'est plus que l'ombre d'elle-même, voire celle de Moscou. Les communistes triomphants, sous la houlette de Klement Gottwald, entament la stalinisation du pays, collectivisant l'agriculture, les industries n'ayant pas encore été nationalisées sous l'ancien président Beneš, et instaurant un régime policier à l'image de celui de Moscou. Cette relation de vassalité imposée à la Tchécoslovaquie, en partie par elle-même, est toutefois ébranlée par l'arrivée au pouvoir à Prague d'Alexander Dubček. Loin de vouloir renoncer au socialisme, Dubček tente de donner à la Tchécoslovaquie une bouffée d'air en levant partiellement la censure et en freinant le processus de collectivisation. Sous son impulsion, la société profite de cette pause, les médias libres se développent, les arts s'écartent de la ligne officielle du parti, critiquant de plus en plus vivement le communisme pragois et son protecteur moscovite. Cette nouvelle politique, inédite en Tchécoslovaquie, inquiète Moscou qui ne voit pas d'un bon œil ces signes de déviationnisme tchécoslovaque. Après des négociations infructueuses avec Dubček, Brejnev décide d'employer la force. Le 21 août 1968, l'armée rouge, appuyée par les troupes du pacte de Varsovie, entre sur le territoire tchécoslovaque. Pour un grand nombre de Tchécoslovaques, y compris des citoyens qui jusque-là croyaient encore au communisme, le désenchantement est total. Le communisme ne remplit plus ses fonctions et Moscou n'est plus le génial grand frère du peuple tchécoslovaque, mais un agresseur.
Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, tady tě holky nemilujou. Běž domů, Ivane, čeká tě Natáša. Běž domů, Ivane, a už se nevracej.
La rupture des Tchécoslovaques à l'égard de l'URSS, de politique, tend à devenir de plus en plus émotionnel. Les chars soviétiques sont accueillis par une foule brandissant des drapeaux tchécoslovaques et scandant « Ivane, di domu !» Ivan, non russe, rentre chez toi. Le 16 janvier 1969, l'étudiant Jan Palach s'immole par le feu en signe de protestation contre l'invasion de son pays par l'armée rouge et sera imité quelque temps après par un autre étudiant, Jan Zajic. Pour beaucoup de Tchécoslovaques, la répression du printemps de Prague constituera un choc durable et l'URSS aura montré à cette occasion son vrai visage, celui d'une mère tyrannique. Sous la pression des soviétiques, intervenant directement dans les affaires intérieures tchécoslovaques, Dubček est remplacé par Gustav Husák, qui rétablit l'ordre et la Pax Sovietica. Débute alors la période dite de la normalisation, marquée par la paralysie totale du régime communiste tchécoslovaque, n'osant plus bouger. Les historiens Tchornay et Pokorny parleront d'une nation et d'une société enterrées vivantes. Les mouvements de résistance, comme la Charte 77, conduite entre autres par Václav Havel, se bornent très vite à la répression systématique du régime tchécoslovaque, fortement influencé par Moscou.
Mají tě v ohrádce, za mříště vsadili, andělé z Brixenu, co vzývají násilí. Pohádka pro děti, loutkové divadlo, tahají za nitky, nevídou na světlo. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litéry paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle.
Les années 1980 sont marquées par un changement politique important à Moscou. Succédant à Andropov et Tchernenko, le jeune Mikhail Gorbatchev souhaite infléchir la marche forcée du communisme pour le faire partir sur de meilleures bases. En effet, l'URSS est à bout de souffle, épuisé par une course à l'armement tournant à l'avantage des États-Unis et souffre d'un manque de productivité évident. Sentant que les évolutions intérieures des régimes d'Europe centrale, Pologne et Hongrie principalement, se font dans le dos de Moscou, et rompant avec la doctrine Brejnev selon laquelle l'armée rouge devait intervenir dans tout pays où le communisme imposé par Moscou serait menacé, Gorbatchev se détourne de l'Europe centrale. L'URSS se détourne peu à peu de la Tchécoslovaquie et se concentre sur son empire. Le regard des Tchécoslovaques se porte alors principalement vers la Pologne et la Hongrie. En Pologne, l'élection en 1978 du Polonais Karol Wojtyła au Saint-Siège redonne espoir aux Polonais, ainsi que les grèves lancées par le premier syndicat libre, Solidarité. En Hongrie, la libéralisation progressive du régime, alliée à l'ouverture des frontières avec l'Autriche, laisse apercevoir la fin du tunnel. Gorbatchev laisse la Pologne organiser une table ronde entre le Parti communiste, l'Église et Solidarité. Il ne réagit pas au percement du mur de Berlin. À Prague, les Tchécoslovaques, appelés à manifester suite à une manifestation d'étudiants, agitent des drapeaux tchécoslovaques en signe d'indépendance nationale recouvrée. Les drapeaux et symboles de l'URSS sont retirés. La Tchécoslovaquie, quelques semaines après ses voisins polonais et hongrois, retrouve son indépendance.
V záplavě novodobých kýčů, v hluku módních sloganů a frází, prosím tě, nepřeslechni zvonění klíčů, které tvé kroky doprovází. Zvonění klíčů nikdy nekončící revoluce. Dosud ty klíče svíráš v ruce. Tak jejich výzvě uposlechni, i když se mnozí už vyzvonili značení. Ty ale nikdy nepřeslechni to věčně naléhavé zvonění.
C'est ainsi que notre émission est terminée. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine sur les ondes de Radio Prague.
Každý má klíče ke své svobodě, může se lidem otevřít, nebo své já zamknout na 100 západů a chránit svůj klídek v pohodě. Každý má klíče ke své svobodě, může své nitro rozsvítit a tím světlem šířit dobrou náladu i v době svízelů a v nepohodě. Každý má klíče ke své svobodě. Nic není zadarmo, všechno se platí, váží si svobody ten, kdo ji ztratí. Když ji zas nabyde, zná její cenu, zná i otroctví, co skrývá jménu, tak jako nenávist lásce, ví, co je v sásce.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz. And in